Le centre de découverte du Moyen-Âge d'Aigleton ouvre à ses visiteurs en fait les portes du monde médiéval. C'est la vie domestique, la vie monastique, les luttes dynastiques et les rivalités meurtrières, ainsi que le développement du commerce et les innovations techniques, puisqu'on aborde différents domaines comme l'architecture, l'artisanat, l'armement, la santé, l'alimentation, etc. La visite, c'est un parcours sensoriel, donc on peut toucher, puisqu'on a environ 350 m² de scénographie qui sont présentées au public, et on aborde, via une approche interactive, en fait, la vie quotidienne et l'art sacré au Moyen-Âge. C'est vrai que le parcours il est adapté à tous les publics, mais qu'on se focalise quand même particulièrement aux visiteurs qui viennent en famille, puisqu'effectivement les enfants peuvent toucher, etc. Après, on dispose aussi d'un très beau jardin médiéval. Donc c'est un jardin clos qui est de forme rectangulaire, qui s'inspire des jardins donc des cloîtres. Il est divisé en espaces réguliers. Vous avez des treillages et des ouvrages de bois. Ça s'appelle des plessis. Et ce jardin, donc, comme je vous le disais, est divisé. Donc on a la partie herbularius, donc c'est la partie jardin de simple. La partie de l'hortus, donc c'est le potager. Le pomarius, c'est le verger. Et puis la partie jardin d'agrément avec une très belle fontaine.
C'est quoi un jardin de simple ?
Ce qu'on appelle les simples, c'est les plantes en fait. C'est ce qu'on va utiliser au Moyen-Âge pour se soigner. Et les simples, c'est pas transformé, c'est uniquement des herbes, des plantes qu'on peut trouver justement dans cette partie-là du jardin.
Pourquoi trouve-t-on ce centre de découverte du Moyen-Âge à Aigleton ? C'est quoi le lien entre Aigleton et le Moyen-Âge ?
Le lien entre Aigleton et le Moyen-Âge, c'est vrai que c'est facile de le faire pour nous puisque on est très proche du château de Ventadour. Le château de Ventadour est à quelques lieues donc du centre de découverte du Moyen-Âge, ce qui nous permet notamment l'été de développer le pass Ventadour, c'est-à-dire que un ticket acheté au château de Ventadour égale une réduction au CDMA et inversement. Ce qui nous permet aussi, puisque Bernard de Ventadour est né au château de Ventadour, ça nous permet, dans le cadre du CDMA, justement, de parler des troubadours et puis d'avoir comme fil conducteur, bien sûr, Bernard de Ventadour. On se focalise, bien sûr, sur le XIIe siècle. C'est la partie qu'on aborde le plus au centre de découverte du Moyen-Âge.
Et justement, c'est quoi exactement le Moyen-Âge ?
Le Moyen-Âge, c'est une période qui est assez longue, puisque c'est 1000 ans d'histoire, du 5e siècle au 15e siècle. Ça touche différents aspects, puisqu'on va se focaliser, nous, particulièrement sur certains domaines, comme l'architecture, l'artisanat, l'armement, la santé, l'alimentation, mais il y a plein d'autres domaines qui peuvent être abordés, comme le mécénat, comme les troubadours, comme la musique, etc.
Est-ce que le Moyen-Âge, c'est une époque qui est mal connue, qui souffre de clichés ? On pense beaucoup à une époque violente, par exemple ?
Oui, bien sûr. Le propos ici, c'est justement de, pas de redorer le blason, mais de faire connaître le Moyen-Âge via la vie courante. Donc, ce qui permet aux gens aussi de comprendre qu'on n'est pas si éloigné de la manière de vivre, notamment dans le cadre de l'alimentation. On est comme eux de plus en plus locavores, on essaye de plus en plus de faire attention à sa santé, d'utiliser des plantes, etc. Oui, c'est vrai que depuis le 19e siècle, le Moyen-Âge est vu comme une période obscure en comparaison avec la Renaissance, etc. Mais nous, on essaye de le présenter justement sous son angle positif, qui est souvent mal connu et qui laisse aussi parfois la part assez belle aux femmes.
Qu'est-ce qui a fait, d'après vous, qu'au XIXe siècle, on a commencé à avoir une lecture plutôt négative du Moyen-Âge ?
Alors, il y a plusieurs raisons, à mon avis. Les historiens ont certainement opposé ce qu'ils considéraient comme ces temps obscurs avec la Renaissance, qui était plus une période plus lumineuse, une période d'ouverture vers le monde, l'humanisme, etc. Alors que au Moyen-Âge, comme c'est une période très longue, on trouve tout au Moyen-Âge. C'est vrai que c'est la période la plus longue, donc c'est vrai que il y a effectivement des croisades, il y a effectivement des pestes, il y a effectivement des choses difficiles qui se passent, mais à mon sens, on peut traiter le Moyen-Âge d'une manière beaucoup plus joyeuse.
Et justement, le centre de découverte du Moyen-Âge d'Aigleton consacre une exposition aux peintres flamands jusqu'au 4 juin. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition consacrée aux peintres flamands ?
Le propos de cette exposition, c'était dans le cadre de la 12e édition de la Nuit des Musées, de présenter donc une exposition pluridisciplinaire, donc, puisque c'est également lié au Printemps de la Haute-Corrèze, qui est une autre manifestation. Donc on a associé la Nuit des Musées au Printemps de la Haute-Corrèze, dont la thématique choisie cette année, c'était la Belgique. Du coup, pour relier le thème de la Belgique avec le Moyen-Âge, on a décidé de présenter une exposition multimédia sur les primitifs flamands. Les primitifs flamands, c'est vrai qu'ils sont en rupture avec l'esthétique du gothique international. Ils prônent le réalisme et on s'est particulièrement intéressé à trois précurseurs, pardon, Robert Campin, qui a une puissance plastique dans l'œuvre qui est très importante, Van Eyck, qui est peut-être le plus connu des trois, qui est peut-être plus contemplatif et qui va travailler sur la captation de la lumière, et sur aussi Roger van der Weyden, qui est plutôt la synthèse des deux premiers en plus dynamique. Qu'on considère comme primitif, c'est vrai que c'est un terme qui a été créé par les historiens de l'art, donc à la fin du 19e siècle, mais qui a été aussi réutilisé au 20e pour qualifier les artistes qui ont précédé la Renaissance. C'est 1430-1470, donc c'est le 15e siècle.
Vous avez expliqué que leur peinture était plus réaliste. Quels changements ils ont apporté par rapport à ce qui se faisait avant et qu'est-ce qui se faisait avant ?
Alors, il faut déjà parler de la technique. C'est vrai qu'on va avoir la généralisation de l'usage de la technique de la peinture à l'huile, qu'on va opposer à la tempéra, qui utilisait le lion à l'eau. Là, on va avoir un mélange de pigments et d'huile. On va aussi avoir la technique du glacis. C'est un effet de transparence qui est donc obtenu par la superposition de couches très fines de peinture. Et on va aussi avoir, par contre, comme réminiscence du gothique tardif, des figures élancées et puis la représentation de l'architecture. Après, ce qui est vraiment la singularité de la peinture flamande, c'est le réalisme pictural, comme je vous disais. Donc, on va avoir l'observation du monde. Donc, là, tout va faire sens. Les reliefs, les volumes, la vie quotidienne, tout ça, subitement, ça va revêtir un intérêt artistique. C'est une façon, en fait, de raconter de manière assez singulière le quotidien via ses couleurs, ses volumes, etc. On va aussi travailler sur la perspective géométrique. Alors, c'est vrai que c'est encore les prémices, mais c'est quand même important de le souligner.
C'est-à-dire qu'on commence à s'éloigner de ces tableaux où on voit des personnages qui sont plus importants qu'un château qui se trouve sur le même plan qu'eux.
Voilà, là on est plutôt dans une recherche de tridimensionnalité, on va avoir une recherche quand même de perspective avec des échelles, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors.
Et on trouve dans cette exposition des retables, c'est quoi un retable ?
Alors le retable, ça vient du latin retro tabula altraris, donc en arrière de l'autel. C'est donc une œuvre qui est peinte ou sculptée, qui est située derrière l'autel de l'église. La partie extérieure du retable avait pour coutume d'être sculptée et non peinte. Mais en fait, cette technique, elle a été quand même relativement vite abandonnée parce que c'était trop lourd pour l'ensemble des œuvres qui s'en trouvaient souvent endommagées. Et le retable, n'était ouvert que les jours de fête chrétienne. Ça laissait alors apparaître la richesse de ces illustrations peintes très ponctuellement dans l'année finalement. Ça peut être composé de plusieurs panneaux, donc 2, c'est alors un diptyque, 3, c'est un triptyque, puis alors plusieurs panneaux, c'est un polyptyque constitué, par exemple, si on veut utiliser un exemple, on peut prendre celui de l'agneau mystique de Van Eyck, où il y a différentes parties qui sont peintes et différents panneaux de bois qui sont utilisés.
Alors j'imagine que quand c'est un diptyque, un triptyque ou un polyptyque, il y a un intérêt à ce qu'il y ait différents tableaux qui se font écho les uns aux autres.
Voilà, c'est ça. Dans le cadre de l'agneau mystique, par exemple, c'est une œuvre qui est très imposante et qui traite différents sujets, différentes parties. Donc ça va de du jardin d'Éden avec Adam et Ève, avec plus tard l'agneau mystique qui est sacrifié, etc. Donc c'est l'histoire en fait de la Bible en quelque sorte qui est relatée via ce retable.
Cette exposition consacrée aux peintres flamands du Moyen-Âge est aussi une exposition multimédia. C'est quoi le côté multimédia ?
Alors le côté multimédia, c'est qu'on a utilisé des rétroprojecteurs, on en a utilisé 3, pour grossir au maximum des détails qui avaient été présélectionnés auparavant. Donc on a choisi environ une douzaine d'œuvres par artiste, et ensuite on a grossi au maximum un certain nombre de détails qui faisaient sens pour illustrer la technique de chacun des artistes, ce qui permettait, puisque en fait ce sont généralement des tableaux qui sont, des panneaux de bois qui sont quand même de petite taille, et on passe souvent à côté de l'essence même du propos de l'artiste, c'est-à-dire de montrer tous ces détails et ce réalisme-là, alors que là, grossi, montré vraiment dans toute sa splendeur, on se rend compte à quel point ils étaient merveilleusement doués.
Est-ce que vous avez un exemple de détail qui donne son sens à un tableau ?
Oui, on pourrait prendre en considération le chien qui est présent dans le tableau des époux Arnolfini, qu'on voit pas très bien, qui est un symbole de fidélité. Donc oui, ça c'est important de le souligner, par exemple, tous ces détails et tout le travail sur la symbolique de l'œuvre.
Ces gros plans, ces zooms sur les différents tableaux permettent aussi de révéler des choses, entre guillemets, cachées. Qu'est-ce qu'on peut découvrir de caché sur ces tableaux ?
En ce qui concerne les techniques, par exemple, c'est vrai que les artistes faisaient partie de guildes, donc c'est des confréries corporatives d'artistes où ils apprenaient différents métiers, notamment le métier d'orfèvre. Et il y a différents détails qui présentent avec une minutie extrême des bijoux, leurs couleurs, leurs lumières, et ça c'est très intéressant de voir ça puisque c'est des détails dont on passe complètement à côté.
Et parmi les peintres que vous évoquiez, Van Eyck, Campin ou Van der Weyden, est-ce qu'il y a un de ces trois peintres auxquels vous êtes particulièrement sensible, est-ce qu'il y a une peinture que vous aimez particulièrement ?
Je trouve que tous les trois sont particulièrement doués et ont apporté énormément puisqu'ils ont été ensuite copiés. C'est un travail d'atelier qu'ils ont réalisé la plupart du temps. J'ai pas de favoris. Je trouve que tous les trois sont remarquables dans leurs innovations techniques et dans leur sensibilité.